Tim Messeyer, bonjour. Nous sommes à Montréal, au cœur de ton exposition « Un mobilier contextuel », présenté au Centre d'art Diagonale jusqu'au 23 avril. Merci d'avoir accepté mon invitation pour cette rencontre. Dans un premier temps, peut-être que tu peux nous parler un peu de ton parcours.
Alors, moi je suis citoyen suisse. Je suis né dans la petite ville de Vevey, qui est une petite ville du canton de Vaud, au bord du lac Léman. J'ai fait mon bachelor à l'école cantonale d'art du Valais, qui est un canton dans les montagnes. Okay. Puis ensuite, quand j'ai fini ça, j'ai fait 2 ans où j'ai fait mon service militaire et j'ai travaillé dans des musées comme technicien. Ensuite, je suis venu faire ma maîtrise à l'Université de Concordia à Montréal.
Ça fait combien de temps que tu es à Montréal?
Depuis 2011.
Ok.
12. Ouais, 2011.
Ok. Après. Donc, nous sommes installés confortablement au sein de ta nouvelle proposition que l'on peut qualifier d'immersive. Celle-ci se déploie dans la salle de monstration et en occupe la moindre petite parcelle. Peux-tu nous décrire un petit peu en quelques mots ce dans quoi nous sommes?
On est dans une sorte de, d'espace de monstration, ouais, d'espace de monstration de mobilier, comme quand on va au magasin IKEA puis qu'on va choisir une cuisine. Bah, ici, il y a un peu tous ces éléments qui rappellent le domestique ou la maison. Il y a genre une étagère, il y a un lit, il y a une table avec des chaises, il y a un comptoir où il y a des tabourets de comptoir, il y a une corbeille, des étagères,
des chaises.
Un petit coin salon, un espace télévision, des très grands sous-verts, puis aussi des porte-manteaux avec des sacs dessus. Et à l'entrée, il y a des monuments de bienvenue, mettons, et un étendoir à linge.
Des monuments de bienvenue qui ressemblent à...
Qui ressemblent à des petites moufles.
Des
petites moufles sur des bâtons de ski, avec... des podiums, okay. Enfin des socles sculptés.
Ok.
C'est ça. Après, sur tous ces éléments, il y a aussi d'autres éléments de la vie, normale, c'est-à-dire des verres, des saucisses en plâtre, des bagels en plâtre, des tasses et une boule de bowling.
Tout ça est bien ludique, on peut dire que tu as un univers plutôt pop. Plusieurs appréhensions théoriques se démarquent clairement dans ta pratique. Le rapport du faire et du savoir-faire, ainsi que la porosité de l'artiste-artisan, la contextualisation récurrente de tes propositions au sein de l'histoire de l'art et du design. On peut dire que tu es un grand féru de référents et de citations plastiques. Peux-tu nous parler donc un peu plus d'un mobilier contextuel?
L'expo, elle se veut comme une immersion du spectateur dans une sorte de domesticité. D'un coup, le spectateur, il se retrouve immergé dans un mobilier qui est pas un mobilier parce qu'il est inutile, en fait. Il est fragile et il est facilement... cassable, on peut le réduire à néant juste en s'asseyant dessus. Ça fait que les mobiliers qu'on voit, genre les chaises, tout ce qu'on a cité avant, elles relatent pas d'une pérennité, tu vois. Elles sont très éphémères comme ça, parce que très fragiles. Mais en même temps, elles s'incluent dans une histoire, tu vois, dans une histoire de l'art, mais aussi une histoire du design. Elles sont toujours en référence à différents niveaux d'interprétation. Et tout ce qui a été fait, en fait, a été fait grâce à la technique de la sérigraphie, où j'ai utilisé des différents motifs, différents patterns qui sont reproduits sur le tissu. Qui sont ensuite le tissu qui est donc tiré ou tendu sur des châssis Ça rappelle aussi toute l'histoire de la peinture. Et là où il y a une espèce de rupture, c'est que tout ce qui est au mur, tout ce qui ressemble à un tableau, en fait, c'est pas un tableau. Si on prend l'exemple d'une espèce de il y a un parquet comme ça. Mm-hmm. C'est un espèce de bout de parquet qui est entouré de plinthes.
Qui est présenté au mur.
Qui est en fait présenté au mur, qui rappelle une peinture, mais c'en est pas une. Parce que c'est en bois, puis c'est pas peint, tu vois. À part la peinture qui est un vernis, tu vois. Mais c'est juste illustré, en fait. Mm-hmm. Là où ce qui ressemble le plus à des peintures, c'est justement les étagères, ou les dossiers de chaises, ou les séants des chaises, qui sont vraiment des véritables petites peintures, quoi, petits tableaux, tout. Mais parce qu'ils sont construits d'une autre manière que posés au mur, ils deviennent chaises, ou ils deviennent comptoirs, ou ils deviennent armoires, tu vois, ou portes d'étagères. Donc, pour moi, c'est tout ce rapport d'inversion, finalement, de changement d'idée, qu'on se fait des choses qui m'intéressent. C'est-à-dire, au vernissage, il y a tout d'un coup une copine qui a travaillé toute la journée, par exemple, c'est une petite anecdote, qui a travaillé toute la journée, puis elle était là, ouais, bah, je suis venu à ton vernissage. C'était le truc le plus insupportable du monde parce que j'étais fatigué, tu vois. Puis j'avais juste envie de m'asseoir. Puis pour moi, au montage aussi, ça a fait la même chose. D'un coup, j'ai fini de monter quelque chose, puis là, il y a les chaises, puis je me dis, ah, je m'asseyerais bien. Puis en fait, je ne m'assieds pas du tout, tu vois. Je ne peux pas m'asseoir parce que sinon je détruis mon travail. Mm-hmm. Donc c'est tout ce rapport à ok, si tu touches, c'est possible, tu vois. Genre, on peut ouvrir ça, on peut le permettre aux spectateurs. Mais en même temps, s'ils le font, ils font le choix aussi de peut-être casser la chose. Mm-hmm. Du coup, pour moi, c'est cet intérêt qu'on a quand on va voir une exposition de pouvoir toucher ou pas toucher, tu vois. Comment est-ce que on réagit aux œuvres, mais d'un point de vue pas animal, mais primaire, où on va se retrouver en face d'un travail et on va se dire, ok, comment est-ce que je réagis par rapport à ça? Ça commence toujours par j'aime pas, tu vois. Puis après, c'est comment est-ce que je l'interprète, puis qu'est-ce qui fait ce truc dans l'espace, toi. Et cette exposition-là, elle est faite pour poser ce genre de questions. Elle est construite pour amener le spectateur à se situer, lui, dans l'espace, puis dans la chose, tu vois, avec les choses, en fait, avec les affaires, tu vois, avec les meubles.
Mais parce qu'il y a des pièces qu'on peut ouvrir, en fait, finalement, qui représentent des étagères. Les gens peuvent entrouvrir et découvrir des objets à l'intérieur.
Ouais, il y a ce côté aussi de détails, tu vois, de petites blagues, en fait. C'est vraiment des petites blagues par rapport au design, par rapport à l'histoire de l'art. Pour moi, c'est sans prétention, en fait. Mon intérêt là-dedans, il est du simple fait que moi j'aime les meubles, puis j'aime quand on va voir une expo, on comprend assez clairement ce qui se passe, tu vois. Mais en même temps, j'ai envie aussi que les gens ils se posent des questions sur comment réagir à ce genre de choses, d'où ça vient, tu vois. Est-ce que c'est par exemple par rapport à leur propre background, à leur propre passé, tu vois. Ah, ça me fait penser au verre que j'avais quand j'étais petit à la maison de ma grand-maman, tu vois. Du coup, il y a tout ce côté nostalgique, mais qui n'est pas nostalgique parce que l'expo, elle est liée à des références très claires, tu vois, genre au mouvement Memphis, Ettore Sotsas. D'ailleurs, la plupart des patterns, ils sont soit directement volés d'Internet, tu vois, ou alors ils sont reproduits, c'est ce qu'on voit, tu sais, avec les coups de pinceau, enfin les coups de Sharpie sur les bois peints. C'est tout ce rapport à à la référence globale de l'histoire de l'art, mais aussi aux références internes, tu vois, qu'on a par rapport à, ce qu'on voit, tu vois, que ça soit dans la vie ou que ça soit dans, une galerie d'art. Puis, c'est pour ça que ça s'appelle l'expo, elle s'appelle un mobilier contextuel, c'est que finalement, ce mobilier-là qu'on voit dans l'espace de Diagonale ou dans n'importe quel autre espace de, d'exposition, hein, disons artistique, il est changé parce qu'on amène des objets, disons, réels. Tu vois. Donc tout ce rapport à la vie devient sculptural aussi, parce que le comptoir devient un pod, tu vois, il devient un podium, il devient un socle, où on pose un objet, mais en même temps, l'objet sans le podium pourrait très bien exister en tant que sculpture. Tu vois. C'est tout, tout ce rapport au ready-made de Duchamp ou à l'insertion d'un objet autre que l'art noble. Tu vois. C'est pour ça que je dis que c'est sans prétention. Je le dis sans prétention, en toute humilité, parce que finalement, c'est un rapport très, très doux et puis très, très affectif, tu vois, très simple à ce qu'on voit dans la vie. Tu vois. Après, moi, le but, c'est pas de faire une psychothérapie, tu vois. Genre, parce que c'est ça, en fait. J'ai l'impression que on voit beaucoup d'œuvres et si on n'est pas dans la tête de la personne qui l'a faite, c'est compliqué, tu vois. C'est très compliqué à venir chercher des intérêts, venir chercher des liens avec nous en tant que spectateurs qui regardons l'œuvre. Et de ce fait, on se retrouve souvent bloqué à dire bon bah putain, je comprends pas, tchao, tu vois. Alors que ici, bah voilà, c'est peut-être moins torturé, tu vois, que d'autres gens ou que d'autres hommes. Mais c'est pas le but non plus. Tu vois. C'est pas le but de briser tout lien avec le spectateur. C'est vraiment cette idée de ok, bah bien, bah, je vais essayer de t'inclure le plus globalement possible, puis que toi tu puisses te faire aussi une narration là-dedans. Tu vois.
Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours présent dans ta pratique, ce lien au spectateur?
Ouais, ça a toujours, pour moi, ça a toujours été un hyper important. Ne serait-ce que le simple fait de laisser le choix aux gens, tu vois. Genre, est-ce que tu peux t'asseoir ou pas? Est-ce que tu peux toucher ce truc? Est-ce que tu peux ouvrir, tu vois, le cabinet pour voir ce qu'il y a dedans, tu vois. Puis c'était cool, au vernissage, les gens, ils ont fait ça, tu vois. Il y a même quelqu'un qui a allumé la lampe, j'ai dû lui dire, parce qu'on a une lampe qui a brûlé pendant le vernissage. Il y a qui a allumé la lampe après coup, puis j'étais là, non, attends, écoute, c'est super ce que tu mets. En fait, elle a brûlé, tu vois. Donc, pas de ça. Ouais. Ça a toujours été pour moi hyper important d'inclure les gens, tu vois.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la façon dont tu as construit l'évolution des spectateurs au sein de ta proposition, puisqu'à l'entrée de la galerie, finalement, tu as choisi plus de mettre l'emphase sur des objets qui relèvent plus de l'ordre du personnel. C'est très concentré par rapport à toi, à ce que tu es. Et ensuite, on évolue plus dans un espace qui est peut-être plus normé, on va dire. On a ce sentiment-là, en tous les cas. Tu peux nous dire de quelle manière tu as décidé de construire justement cette proposition de cette façon-là?
Bah, je pense que une des choses les plus, mettons, personnelles, entre guillemets, une des choses qui relate le plus de mon propre parcours, c'est cette broderie au point de croix, tu vois, que j'ai faite, où il y a le mot Heimat qui est marqué, qui veut dire l'endroit dont on vient, l'endroit dont... Ouais, c'est ça, c'est à peu près ça, ouais. Mais c'est un peu indescriptible aussi, mais c'est la maison, tu vois, genre le foyer, tu vois. Mais en fait, c'est pas ça, c'est plus, par exemple, c'est pas forcément l'endroit où tu es né, ou en tout cas, comme moi je l'interprète, ça peut être aussi l'endroit où tu te sens bien, tu vois. Et cette broderie au point de croix, tu vois, elle rappelle toute la technique justement de ces trucs un peu décoratifs, tu vois, genre. Enfin, dans l'histoire de l'artisanat, le point de croix, c'est le point qui est utilisé pour écrire, tu sais, genre home sweet home, tu vois. Ça, c'est une espèce de généralité, tu vois, dans les maisons un peu cossues, genre typique cottage, c'est toujours marqué kitsch, home sweet home au point de croix. Là, c'est la même chose, mais sauf que c'est un autre mot qui est, disons, beaucoup plus général, mais aussi qui est ultra spécifique au langage, tu vois, parce que c'est allemand, c'est un mot allemand, mais c'est un mot qui est maintenant tellement connu aussi parce que qui a été utilisé dans. Il y a un film de, je me souviens plus comment il s'appelle, un réalisateur allemand, qui s'appelle Heimat. Ensuite, après ça, il y a cette espèce d'étendoir pour le, qui s'appelle, en Suisse on appelle ça un stovi, mais c'est normalement ça ressemble à un parapluie comme ça, puis c'est dans les jardins. Tu vois. Ça, c'est une manière d'étendre le linge qui est propre aux villas suisses, tu vois. Si t'as une villa puis t'as un jardin, c'est sûr que t'as un stovi pour aller étendre ton linge, faire sécher au soleil, tu vois. Donc, il y a ce rapport-là à mes origines suisses, puis en même temps, dessus, c'est accroché des cartes postales suisses, tu vois, qui sont données à... Enfin, qui vont être envoyées à personne, il n'y a pas de nom, tu vois, c'est ultra pas personnel. Sur lesquelles sont dessinés, en plus, des éléments de la galerie, tu vois. Enfin, des éléments, des sculptures qui sont dans la galerie. C'est ce rapport, tu sais, à genre un circuit fermé, tu vois. Heimat, c'est un peu comme... C'est vraiment... Ça rappelle cette espèce de... Enfin, tout le mobilier, c'est un peu le mobilier que j'ai fait, qui est idéal pour moi, que j'aimerais bien avoir, mettons, dans mon appartement. Tu vois, j'aimerais avoir ces chaises, j'aimerais avoir cette lampe. Mais en même temps, c'est plus à moi parce que c'est montré dans l'exposition... Et que ça ressemble dans la construction de l'exposition à une salle de montre, tu vois. C'est une salle de monstration vraiment de genre typiquement Ikea, tu vois, comme exemple. Enfin, je sais qu'on ne devrait pas citer de marque, mais c'est vrai que, ou genre n'importe quelle autre, tu sais, mise en espace, tu vois, parce que c'est vraiment ça, c'est genre. Oh, regarde ta lampe, elle peut être comme ça à côté de ce siège. Mais ça peut être n'importe quoi d'autre, mais la personne qui, dans le magasin, a décidé que ces deux-là iraient bien ensemble, bah, elle a fait le choix de ça. Ici, c'est la même chose, mais à la place que ça soit des mobiliers qui ne sont pas à moi, bah, c'est des mobiliers que moi j'ai fait. C'est tout ce rapport justement au personnel dans la facture, tu vois, dans la pas dans la manutention, mais dans la manufacture. Vraiment.
Tu savais que j'ai lu, quand j'ai préparé le texte de ton exposition, j'ai lu un peu sur Ikea et j'ai vu que le catalogue Ikea, c'était le troisième livre, en gros, le plus vendu au monde, après la Bible.
Après la Bible, ouais, c'est énorme, c'est immense. Ils ont complètement... Mais tout le monde a ça, tu vois. C'est ça qui est incroyable, c'est que tout le monde a, genre... Si tu l'as acheté en seconde main, d'un coup, t'as un truc Ikea, tu vois. Pareil, ici, le vase en métal, là, c'est un truc Ikea, tu vois.
Sur lequel tu as agi.
Ouais, après, il y a certaines choses qui sont modifiées, tu vois. Mm-hmm. C'est des ready-made modifiés, mais d'autres qui sont pas du tout modifiées, comme par exemple les deux tasses qui sont sur des très grands sous-verts, ou certaines assiettes qui sont sur des petits podiums, tu vois, elles sont juste mises en démonstration, elles sont juste montrées, tu vois.
Tout à l'heure, tu faisais référence à finalement ton utilisation des châssis et de la peinture, en fait, finalement, quasiment chaque objet qui est présent ici dans la salle a été construit de façon à rappeler quelque part une toile. Mmh. C'est comme si la toile devenait objet, support sculptural. On est vraiment dans un rapport très objectal avec, ouais, avec la peinture. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rapport à la peinture, justement?
Bon, finalement, c'est... Ouais, c'est... mais c'est pas vraiment des peintures, tu vois. C'est ça le truc. C'est que C'est comme poser la question, est-ce que les sérigraphies de Andy Warhol, c'est de la peinture? Est-ce que c'est de la peinture? Eh bien, ici, c'est exactement la même problématique, c'est-à-dire, en même temps, tu as des tissus qui sont imprimés à la main, tu vois, par mes soins, mais tu as aussi des tissus qui sont issus de l'industriel, tu vois, genre cette espèce de granit, tu vois, qui est le tissu en forme de granit qui est posé sur le comptoir, ou les tabourets, tu vois, les chaises, les séants et les dossiers des chaises, c'est aussi issu de l'esprit de quelqu'un qui a créé ces patterns, tu vois. Pour moi, c'était important de mélanger les deux, d'avoir certains tissus qui sont faits à la main, puis d'autres qui ne sont pas faits à la main. Histoire qu'il y a une espèce de globalité dans la production, tu vois, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est que ces peintures-là, ces châssis tendus, ces sérigraphies tendues sur châssis, elles deviennent peu importe, tu vois, elles ouvrent un champ d'interprétation, tu vois, qui n'est pas d'idée de peinture, mais plus comme d'idée d'un objet, enfin d'une transformation ou d'une déformation ou d'une transition, mettons, de quelque chose à quelque chose d'autre, tu vois, mais qui n'oublie pas l'idée principale derrière, tu vois, qui est genre, ok, bah une peinture finalement, c'est un tissu tendu. Mais un tissu tendu, ça peut être aussi un dossier de chaise. C'est ça, enfin. Du coup, l'objet, il existe parce que j'avais besoin de ça, tu vois. J'avais besoin d'étagères, alors j'ai juste fait des étagères de cette taille. Ou j'avais besoin de chaises, alors j'ai juste fait des dossiers ou pour chaises de cette taille. Pareil pour les sacs, tu vois. Du coup, qu'est-ce que je vais mettre sur ces espèces de crochets, tu vois, sur ces espèces de porte-manteaux, je vais faire 12 sacs ou 15 sacs qui vont être chacun, qui vont être supportés par ces porte-manteaux, tu vois. Mais c'est parce qu'il y a ces porte-manteaux qu'il y a ces sacs, puis en même temps, c'est parce qu'il y a ces sacs qu'il y a ces porte-manteaux. Ils vont ensemble, mais aussi, ils auraient pu supporter, je sais pas, des pulls, tu vois, ou des t-shirts. Et ils sont toujours dans cette espèce. Tous les objets, ils ont un rapport à quelque chose d'utilitaire, originellement utilitaire, c'est-à-dire sur une étagère, on va poser des trucs, sur un lit, on va forcément avoir des coussins, tu vois. Puis en même temps, on n'est pas obligé, tu vois, j'aurais très bien pu prendre le lit, puis juste le poser par terre, puis juste avoir un carré comme ça, puis ça te fait penser à un lit. Mais après, tu sais, pourquoi essayer de briser un peu, tu sais, de rendre le truc flou? Quel est l'intérêt de ce truc? Quel est l'intérêt de rendre plus abstrait qu'abstrait, tu vois, genre?
Mais en plus, moi, je perçois dans ta pratique, finalement, c'est pas de suggérer quelque chose qui t'intéresse, mais finalement, c'est que l'utilité de l'objet qui est montré,
exact, ouais,
est complètement détournée et elle n'est plus possible, en fait.
Ouais, c'est genre, ça. C'est exactement ça. Parce que ça, c'est que des aussi, il faut savoir que c'est que des mesures ou des tailles standards, tu vois, genre la table, c'est une table standard pour 4 personnes avec un espacement de, c'est très précis, tu vois, avec un espacement de, je sais pas, je me souviens plus combien de pouces, mm-hmm, entre personnes pour que ça soit agréable pour l'écoute, tu vois. Puis si tu vas dans un magasin, puis tu vas chercher une table de 4 personnes, cette taille-là. Pareil pour le lit, c'est un lit double. Tu vois. Mm-hmm. Mais c'est pas un king size, c'est pas un queen, c'est genre un lit double. Tu vois. C'est genre un twin ou un truc comme ça. Mm-hmm. Avec un matelas de 6 pouces, parce que c'est normalement un matelas de 6 pouces. Puis une hauteur de, je ne me souviens plus, 25 pouces. Mm-hmm. Pareil pour l'étagère. L'étagère. Ça peut venir de forme variable en son temps, mais une étagère, c'est normalement 3, C'est une étagère de garage, mettons, c'est genre 3, 6 pieds de haut, mm-hmm. Avec des étages qui peuvent varier, tu vois. Il y a beaucoup de liberté dans la création, on s'entend. Mais c'est fait pour être à taille humaine, tu vois. C'est fait pour être utilisé, vraiment. Il y a ce rapport-là que je trouvais hyper important. Puis ça, c'est en référence directe avec le travail de Michael Asher, qui va dans des endroits, tu vois, puis s'occupe des endroits. Il fait des expositions sur des choses très, très spécifiques des endroits. Par exemple, il avait fait une expo à la Kunsthaus, Kunsthalle de Berne, ouais, où il avait pris tous les radiateurs, puis il les avait amenés, il avait tiré les câbles, puis il les avait amenés dans une pièce centrale, tu vois, parce que la Kunsthalle de Berne, c'est genre des petites pièces à côté, puis une pièce centrale. Puis lui, il avait tout amené, tous les radiateurs de la galerie, enfin du centre, dans une seule pièce. Mais les radiateurs fonctionnaient encore, tu vois. Puis il avait fait un autre truc en France où il s'était occupé de la chaudière, tu vois. Puis il a fait une expo sur la chaudière. Ou à Chicago, une expo sur les fenêtres du lieu, tu vois. Genre, il allait chercher les brevets pour ces espèces de fenêtres à guillotine, tu vois. Du coup, c'est que des petits détails, tu vois. Puis moi, c'est ça qui m'intéresse.
Mais justement, c'est ça. Est-ce que tu peux me parler un peu de l'importance qu'a les référents dans ton travail, puisque c'est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup de ta pratique.
Ouais, ouais. Bon, ici, il y a moins de références directes, tu vois. D'habitude, moi, une de mes artistes de référence préférée, c'est Hélène Sturtevant, qui est une artiste à peu près de la même période que Sherry Levin, tu sais, féministe, mais dans le sens où elle a un discours féministe parce que elle s'est battue, enfin elle s'est pas battue, mais elle a imposé une sorte d'humour face aux hommes, à la proéminence mâle dans l'art à ce moment-là, tu vois, aux États-Unis. Qu'elle a reproduit Richard Serra, tu sais, les peintures noires, elle a reproduit ça, elle a joué avec justement cette espèce de ok, bah eux ils sont hyper importants, bah je vais refaire, tu vois, je vais refaire exact, puis elle les fait exactement les mêmes à la main, tu vois, c'est pour ça qu'elle est intéressante, c'est qu'elle fait tout elle-même, mais elle a refait des Nam June Paik aussi. Et surtout, elle a commencé à faire ça parce qu'elle avait elle a travaillé pour Andy Warhol, puis elle avait un écran de sérigraphie des fleurs, des flowers, puis elle a refait des Andy Warhol, tout. Du coup, il y a tout ce rapport là, tu sais, à genre la joke, tu vois, genre c'est qui, tu vois, c'est qui a fait ça, c'est Andy Warhol ou c'est Hélène Sturtevant, puis au final, c'est pas grave, tu vois. Ce qui est intéressant, c'est que sur le petit label, c'est marqué Hélène Sturtevant. Et pour moi, ces références-là, la reproduction d'œuvres, c'est plus comme une sorte d'hommage, tu vois, comme une sorte de... je sais pas comment on dit, de pas oublier, tu vois, mm-hmm. De pas oublier d'où on vient, tu vois. Ça revient justement au Heimat, tu sais, ça revient justement à cette espèce d'idée que de toute façon tu viens de quelque part, puis que ça va te suivre, puis que tu peux pas oublier ça, tu peux pas complètement faire vide de tout ça, tu vois, t'es obligé de te souvenir, parce que mais quitte à être pas d'accord, tu vois, mais tu peux pas oublier, tu vois. C'est ça qui m'intéresse, c'est justement l'histoire. Avec un grand H, c'est toutes ces choses qui se sont passées avant et dont on peut dire, bon, bah, je savais pas, tu vois, mais en même temps, nul n'est censé ignorer la loi, tu sais, genre, t'es obligé quand même de te renseigner un petit peu, tu vois. Donc, ouais, ici, il y a ce rapport justement directement au design, ce rapport à Andy Warhol avec la sérigraphie.
Tu sais, Memphis aussi.
Memphis, ouais, mais aussi Fluxus, tu vois, genre Georges Brecht, l'activation, la non-activation des œuvres par le spectateur. Tout ce rapport un peu mi-performatif, mi-installatif, mi-sculptural, où il n'y a rien qui est fixe, tu vois. Ça veut dire que si on voulait, on pourrait déplacer le comptoir, puis on pourrait déplacer les chaises, on pourrait les mettre à d'autres endroits. Le but, c'est cet effet moralité, moi, qui m'intéresse. C'est le truc où on peut bouger, tu vois. On n'est pas obligé de fixer des choses au mur pour prouver leur valeur, tu vois. Ça peut être aussi quelque chose de très flottant.
Tu faisais référence aussi à un moment donné au bricolage. Pour toi, c'est important ce rapport au savoir-faire. Tu es vraiment dans un rapport...
Je sais pas si quelqu'un était terre, hein, si d'un coup il y a un ébéniste qui vient ici, parce qu'il doit s'arracher les cheveux, tu vois. Puis si quelqu'un qui est sérigraphe, tu vois, il vient, puis qui voit ce que j'ai fait, c'est sûr qu'il s'arrache les cheveux aussi, tu vois. J'ai pas de... C'est pour ça que moi j'aime le mot bricolage, parce que de un, c'est un mot qui se trouve très peu, qui se trouve sans traduction... en anglais, à part craft handyman ou craftsmanship, c'est un mot qui est très spécifique à la langue française et que j'aime bien parce que c'est encore une fois c'est sans prétention, tu vois, genre ah ouais moi je bricole à la maison, c'est ton papa qui d'un coup fait qui répare une porte, c'est mal fait. Mais ça marche. Le but, c'est que ça marche. Le but, c'est que le résultat soit.
Sauf que là, ça marche pas.
Bah, ça marche parce que ça, c'est des chaises. Mais sauf que tu peux pas t'asseoir dessus. Du coup, c'est du bricolage. Tout. Mais c'est là où la question se pose dans cette expo, c'est est-ce que parce que c'est moi qui l'ai fait, est-ce que c'est parce que j'ai un statut d'artiste, mettons, professionnel, en tant que j'ai mon master. Est-ce que ça a plus de valeur que quand je le faisais avant, tu vois? Est-ce que parce que c'est vu dans une galerie, est-ce que cette œuvre-là a plus de valeur, tu vois? Et moi, c'est ce rapport-là que j'aime bien, c'est le statut de l'artiste, le statut, tu sais, du perfectionnement, tu vois, genre. Il y a des gens qui passent des heures et des heures à faire des tableaux et je suis impressionné par ça, tu vois, je crache pas dessus, hein, mais pourquoi, tu vois? Ma question, c'est pourquoi? Parce qu'on n'a pas le même discours, parce que c'est une autre idée, un autre résultat qu'ils veulent, tu vois, mais... En même temps, l'idée du travail, le résultat elle-même, c'est-à-dire que tu vas prendre ton truc puis tu vas le mettre dans une galerie, tu vois. Tu vas le mettre pour qu'il soit vu. La différence, c'est à quel moment tu assumes, toi, en tant que créateur, tu vois, en tant que producteur ou travailleur, à quel moment tu assumes que ça, c'est terminé, tu vois. Et pour moi, ça va très vite, tu vois, genre... Il y a beaucoup de création à l'atelier, je fais genre beaucoup beaucoup de choses très vite. Et c'est fait, tu vois, ça tient à peu près debout. Si ça se casse, ça se casse, tu vois, je vais revenir chercher. Je vais revenir réparer le truc, tu vois. Réparer l'œuvre qui s'est cassée. C'est pas grave, tu vois. Il n'y a rien qui est grave. Il n'y a aucune gravité dans mon travail. C'est très léger, tu vois. Mais conceptuellement, ça l'est pas. Visuellement, c'est sûr que ça l'est. Tu vois. Il y a plein d'imperfections. Tu vois. Genre, la sérigraphie, les patterns, ils sont pas seamless, ils sont pas fluides. Il y a des accros. Tu vois. Et c'est ça que je trouve intéressant, cette espèce d'accident, tu sais, qui permet aux gens aussi de se dire, mais nom de Dieu, moi aussi, je peux le faire. Tu vois. Je trouve que il y a cet aspect-là où où on demande aux artistes une espèce de perfectionnement, tu vois,
finition.
De vernis, tu vois, de laque comme ça, de perfection dans un travail donné, alors que finalement, même si mais le pire commentaire qu'on pourrait me faire, par exemple, c'est genre, ah, c'est bien fait, tu vois, genre, c'est bien fait, ah, putain, mais qu'est-ce que c'est chiant, tu vois, genre, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des gens qui me disent, ok, bon, bah, ça me rappelle le chalet, tu vois, ça me rappelle ma grand-maman, tu vois. Ça me rappelle quelque chose de chez moi, tu vois, ça me rappelle quelque chose. Ça pour moi, c'est le but, c'est un peu le truc le plus intéressant, c'est ce rapport-là à l'avant, tu vois, au passé, qui est remis au goût du jour.
Tu peux me parler un peu de... Parce que le tissu, c'est vraiment ton médium de prédilection. C'est quelque chose qui est récurrent dans ton travail, tu l'utilises beaucoup, tu le développes un peu partout. Est-ce que tu peux me parler de la raison pour laquelle ce matériau-là, ce médium-là, t'intéresse plus particulièrement ?
Je pense que ce n'est pas le tissu en soi, mais c'est les techniques qui sont en rapport avec le tissu. Tu sais, on parlait de bricolage avant. Genre, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une connaissance médiocre de beaucoup de techniques, tu vois. Par exemple,
fou, c'est que t'as une attente très poussée au niveau de la, comment dire, de la contextualisation dans l'histoire de l'art, mais t'as une attente très approximative de la technicité.
Ouais, moi ce qui m'intéresse, les gens que je trouve le plus intéressant, c'est des gens qui connaissent beaucoup de choses, un petit peu de beaucoup de choses sur beaucoup de sujets, tu vois. La culture générale, ça, je trouve ça incroyable. Les gens qui ont une culture générale, je suis impressionné. Je trouve que la spécialisation dans un domaine, c'est super, tu vois. Mais j'ai l'impression que tu perds aussi beaucoup de choses. Tu perds un esprit de découverte et de curiosité une recherche, c'est une obsession, tu vois. La distraction intellectuel, c'est ultra important, tu vois. Si t'arrives à finir les mots croisés, tu vois, t'es mon copain. Si t'arrives à finir des mots croisés, t'es mon pote, tu vois. Parce que t'as une connaissance un peu globale de plein de choses, puis t'arrives à t'adapter à certaines situations, tu vois, à la définition de certains mots. Je trouve que les mots croisés, c'est justement révélateur de la personnalité de quelqu'un, c'est-à-dire, non, j'arrive pas, tu vois. Puis il y a une logique dans les mots croisés, mais il y a aussi une espèce de devinette, mais aussi de connaissances de base.
Et la technique,
la technique, justement, pour moi, elle est en rapport à comment est-ce qu'on s'intéresse aux choses. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui sont spécialisés dans des domaines. Que si moi, en tant qu'artiste, je commence à me spécialiser dans quelque chose, j'ai l'impression de mourir un petit peu dans ma pratique. C'est-à-dire, là, le tissu, pour moi, c'est intéressant parce que il y a tellement de choses que tu peux faire avec le tissu, mais au niveau mais aussi du développement de concepts par rapport à certaines techniques. Tu vois. D'un coup, y a de la broderie, tu vois, une sorte de loisir, tu sais, de hobby, qui est fait pour être beau, mais qui est fait aussi unique, tu vois, qui est dans une espèce d'unicité. La sérigraphie, c'est fait pour une espèce de production massive. C'est pas le tissu en soi, tu vois, c'est plus genre les techniques relatives à l'artisanat, tu vois, ou au hobby. Par exemple, l'ébénisterie, tu vois. Là, maintenant, j'aime beaucoup travailler avec le bois. J'ai appris à calculer des angles pour faire des espèces de tourbillons. Tu sais, genre, bêtement, ah, comment est-ce que je fais pour tordre un bout de bois, tu vois? Comment est-ce qu'on fait pour faire une courbe dans une lambourde de bois, tu vois? Eh ben, soit tu fais des parallélogrammes, puis ça te donne une courbe, soit tu vas l'imprégner de vapeur, puis tu vas pouvoir le tordre, tu vois. Du coup, en plus, c'est génial maintenant, il y a YouTube, tu vois, puis il y a tellement de tutoriels de gens qui te montrent. Après, c'est à toi, en tant que spectateur de ces vidéos, de faire le choix de te dire, bon, bah, j'essaye, tu vois. Puis, en tant qu'artiste, c'est mon but aussi, c'est d'un coup de dire, ok, bon, on y va, on essaie des trucs, on fait plein de choses. C'est pour ça que j'ai un atelier, c'est pour faire plein de trucs, c'est pour essayer plein de choses, tu vois. C'est ça, la pratique d'atelier. En tant qu'artiste, c'est pas genre le perfectionnement d'une technique particulière, c'est essayer un éventail maximum, presque infini de techniques, tu vois, parce que on a cette chance en tant qu'artiste de pouvoir faire n'importe quoi. Honnêtement, on est libre, tu vois, c'est la liberté totale. Au niveau des techniques, au niveau de l'inspiration, au niveau de nos idées, tu vois. C'est cette idée qu'on peut faire n'importe quoi, tu vois. Et c'est ça que je trouve génial, c'est ça que j'essaie de montrer dans mon travail, c'est d'un coup une ouverture de différentes techniques, une ouverture de curiosité dans la technique. Je suis artiste fibre, mais après tu vois, j'ai fait des fibres parce que j'ai fait mon master en fibre, enfin ma maîtrise en fibre, parce que à ce moment-là dans ma pratique j'étais intéressé conceptuellement au tissu comme vecteur, tu sais, de mémoire, vecteur de domesticité, vecteur, tu vois. Alors j'ai fait de la couture, j'ai fait de la broderie, j'ai fait des patchwork, j'ai fait plein de trucs. Puis en même temps, j'ai cette spécialisation maintenant, je suis artiste fibre. Mais en même temps, il n'y a pas que ça qui m'intéresse, tu vois. Si je peux, là, j'ai un projet, j'ai envie de faire un truc avec des bas-reliefs, tu vois. Du coup, il va falloir que j'apprenne à faire de la sculpture sur bois, ou faire de la sculpture sur pierre, ou peut-être sur marbre, je sais pas si j'ai les sous. Peu importe, tu vois. Genre, c'est pas le tissu qui m'intéresse, c'est plus vraiment cette idée de travail manuel. Et de toutes les techniques qui sont inhérentes au projet que je vais faire. Il y a pas de, c'est plus, tu sais, il y a une idée, genre, ah, j'ai envie de faire ça, puis je le fais, puis des fois ça marche, des fois ça marche pas, parce que je suis juste pas assez bon, tu vois. Du coup, alors je continue à faire ce travail jusqu'à que je développe une technique qui me plaît, tu vois, un résultat qui est probant, ou un résultat qui est intéressant aussi à voir, et qui est d'une certaine manière la plus universelle possible, tu vois. Je sais pas, moi, mon grand-papa, il est ingénieur, tu vois, il était ingénieur, il était chocolatier, et il a toujours fait de la peinture, mais tu sais, quand il était à la retraite, il a commencé à faire de la peinture, puis c'est pas de la bonne peinture, tu vois. Mais pour moi, c'est de la bonne peinture parce que c'est mon grand-papa. Puis en même temps, c'est le gars qui a réparé mon vélo toute ma vie, tu vois. Du coup, il a cette connaissance, tu vois, qu'il a jamais utilisée. Puis il s'est toujours dit, ah, je vais faire de l'art, tu vois. Puis il a toujours voulu faire ça. Puis il l'a jamais fait, tu vois. Il l'a toujours fait pour lui. Bah, chez moi, c'est mon travail, c'est genre complètement l'inverse. Genre, je fais des trucs que je connais pas, à moitié bien, tu vois. Mais le résultat donne des choses qui sont proches des gens. C'est pour ça que si on en revient au début, tu dis c'est très pop, mais je pense que c'est pas pop dans le sens pop art. Je pense que c'est populaire, tu vois. C'est genre proche. J'essaie d'être le plus proche du public, tu vois. J'essaie d'être le plus sympathique, vraiment. Genre, sans prétention. Puis en même temps, dire que t'es sans prétention, c'est genre déjà être prétentieux, tu vois. C'est complètement con. Je pense que c'est une proposition qui est d'une certaine manière universelle. C'est une proposition qui se veut comme quelque chose qui va essayer de toucher en tout cas un maximum de personnes. Après, on s'entend qu'on vit tous dans enfin en tout cas moi, dans une civilisation, une société, c'est une société occidentale, avec des références occidentales, blanches, mâle, tu vois, moi je suis un artiste mâle, blanc, tu vois. Et puis en même temps, une chaise, ça reste une chaise, tu vois. Je pense que cette exposition, elle parle du système D, puis de la débrouille, puis de la démerde, puis tu sais, qu'est-ce que tu fais par exemple, qu'est-ce que tu fais quand t'as 900 balles de budget, puis que tu dois remplir une salle, une œuvre d'art, tu vois. Bah tu fais ça. Cette expo-là, elle a coûté 900 $.
Non, parce que tu as gagné.
Parce que j'ai gagné la soupée.
La soupée.
Puis que c'est comme ça, c'est avec ça que j'ai. Tu vois, c'était mon canevas. Tu vois. C'est-à-dire que pour moi, cette expo, cette proposition, mais aussi genre, toute ma pratique, elle est basée sur des contraintes réelles d'adaptation. C'est vraiment l'adaptation de ce que tu peux faire avec. Une certaine conceptualisation d'une pratique, l'utilisation de certaines techniques, l'utilisation de certains matériaux, puis surtout comment est-ce que tu peux faire quelque chose avec un minimum de moyens, tu vois. Comment est-ce que tu peux recycler, refaire, et en adaptant ça. Finalement, c'est relativement... C'est le système des pays du tiers-monde, tu vois. Enfin, du tiers-monde, des pays en développement. C'est-à-dire, comment est-ce que tu te démerdes pour faire de l'art, tu vois. Comment est-ce que tu en tant qu'artiste qui n'a pas vraiment de thunes, tu fais pour créer un maximum d'effets avec un minimum de moyens, tu vois.
Juste pour contextualiser... La soupée, parce que tout le monde connaît peut-être pas forcément la soupée.
Ouais,
tu as donc participé à cet événement qui propose à 3 artistes de venir présenter des projets en cours durant un repas organisé pour 30 personnes dans la galerie Diagonale. Et à la fin du repas, donc, les gens ont eu la possibilité de choisir un des 3 projets et de verser une partie de leur billet qu'ils ont payé pour le repas, donc en aide au projet finalement. Et tu as été le projet lauréat de la première édition de la soupée.
C'est ça.
On va devoir mettre un terme à cette entrevue.
Super.
Je rappelle que l'expo est visible jusqu'au 23 avril au Centre d'art Diagonale. Voilà, merci.
À Montréal, c'est à Montréal.
À Montréal, bien sûr. Tim Essayer, merci d'avoir nous avoir raconté tout ça.
De rien, Chloé.
Puis à bientôt alors.
À bientôt.